êtes bien à l'écoute de RFI, les 15h en temps universel, 16h à Paris et 17h à Gaza. Le journal vous est présenté par Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour, bonjour à tous. Dans la bande de Gaza, le Hamas annonce près de 730 morts depuis le retour des opérations militaires israéliennes la semaine dernière. Une frappe contre l'hôpital Nasser de Ran Younes a tué un responsable politique du Hamas hier. Les détails dans un instant. En Allemagne, des négociations pour une coalition qui patine. La CDU et le SPD vont présenter en fin de journée les résultats provisoires de leur groupe de travail, mais des divergences persistent. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a rejeté ce lundi la motion de destitution contre le Premier ministre Han Duck-soo. Il redevient ainsi président par intérim. Retour dans ce journal sur la crise politique qui touche la Corée du Sud depuis quelques mois. Et puis en France, elle s'appelait Shahinez Daoud, un féminicide jugé à Bordeaux, le meurtrier présumé passe ce lundi devant la cour d'assises de Bordeaux. À Gaza, ce sont désormais plus de 50 000 morts tués donc sous les... Excusez-nous. À Gaza, ce sont désormais plus de 50 000 morts tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre en octobre 2023, alors qu'une trêve était en place depuis janvier. L'armée israélienne a repris ses bombardements dans l'enclave palestinienne mardi dernier. Hier, Israël a également mené une frappe contre l'hôpital Nasser de Ran Younes qui a ciblé un responsable politique du Hamas. Le groupe armé palestinien a confirmé sa mort. L'hôpital Nasser, l'un des rares encore en fonction, a été lourdement endommagé. Depuis Jérusalem, Sami Bourg Elifa a réussi à joindre un médecin qui y travaille.
L'armée israélienne parle d'une frappe de précision, mais la destruction est monumentale. Tout un étage de l'hôpital est pulvérisé. C'est là que le docteur Khaled Esser, chirurgien, opérait.
Ils ont directement bombardé le bâtiment principal de l'hôpital Nasser. C'est le bloc opératoire qui a directement été ciblé. Nous avons eu la chance. Nous étions juste à côté avec les équipes médicales. Nos soignants vont bien, mais nous avons perdu deux patients qui ont été tués sur le coup.
Le premier, un jeune garçon de 16 ans. Le second, Ismail Barhoum, était effectivement membre du bureau politique du Hamas. Il était soigné à l'hôpital Nasser à la suite d'une frappe ayant ciblé plus tôt son domicile à Khan Younes. Docteur Khaled Esser.
Nous avons creusé durant une demi-heure afin de pouvoir extraire leurs corps des décombres. Notre principal bloc opératoire a été en grande partie endommagé. Il n'est plus fonctionnel et nous avons dû transférer tous nos patients vers un autre département.
Depuis la reprise le 18 mars des opérations militaires israéliennes à Gaza, près de 700 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements israéliens. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Et à l'instant, le CICR annonce que ses bureaux à Gaza ont été endommagés par un projectile explosif. Il n'y aurait pas de blessés. De son côté, le média Al Jazeera annonce la mort d'un journaliste travaillant pour une de ses chaînes dans une frappe à Gaza. En Israël, les autorités ont annoncé ce matin un mort et un blessé dans un attentat dans le nord. L'assaillant a été neutralisé selon la police. C'est le premier attentat en Israël depuis que l'armée israélienne a rompu la trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza le 18 mars dernier. Toujours en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou a formulé de nouvelles critiques contre le chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs, Ronen Bar. Le premier ministre l'accuse de saper les fondements de la démocratie en enquêtant sur le ministre de la Sécurité nationale. La Cour suprême a suspendu vendredi le limogeage du chef du Shin Bet, un limogeage, sur décision du gouvernement. En Turquie, 10 journalistes turcs, dont un photographe de l'agence France Presse, ont été interpellés aujourd'hui à leur domicile à Istanbul et Izmir, troisième ville du pays, selon l'association turque de défense des droits humains MLSA. Des interpellations qui interviennent donc au lendemain de nouvelles manifestations déclenchées par l'arrestation du maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu est suspendu de ses fonctions et incarcéré depuis hier, on l'a appris ce matin. Il a été officiellement désigné candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2028 par son parti, le CHP, le Parti républicain du peuple, la principale force d'opposition. Et parmi les réactions à l'international, la Grèce estime que la situation politique en Turquie est instable et préoccupante. Déclaration du porte-parole du gouvernement grec qui estime difficile d'organiser une rencontre prochaine entre le Premier ministre grec et le président turc. Aucune date exacte n'avait été annoncée officiellement pour cette rencontre. Depuis décembre 2023, les deux pays, historiquement rivaux régionaux, mais partenaires au sein de l'OTAN, tentent de se rapprocher. Direction l'Allemagne où Friedrich Merz avait promis des négociations éclairs et un gouvernement très rapidement. Entré dans la phase critique des questions financières, les négociations entre la CDU et le SPD patinent depuis quelques jours. Les deux veulent présenter en fin de journée les résultats provisoires de leur groupe de travail. Nathalie Varcieux.
17 équipes de spécialistes de la CDU et du SPD négocient en ce moment même à travers Berlin. Avec des résultats très divers, les groupes de travail Culture et Europe ont bien avancé, tout comme la cellule chargée de négocier un compromis autour de la formation, de la recherche et du développement. Les choses coincent par contre autour de thèmes tels que les migrations ou les finances, ainsi que sur les questions de société. La cellule chargée de négocier les grandes lignes budgétaires s'est séparée vendredi sans résultat. Le SPD serait prêt à accepter des économies supplémentaires en échange d'un impôt pour les plus riches, refusé par les conservateurs. Sur les migrations, pas d'accord non plus sur comment accélérer le rythme des expulsions. Désaccord également sur les prestations sociales accordées aux Ukrainiens que veut couper la CDU. Conservateurs et sociaux-démocrates sont également divisés sur le maintien de la libéralisation du cannabis, sur l'assouplissement des règles pour l'avortement et sur le climat. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
En Ukraine, une frappe russe a fait 65 blessés, dont 14 enfants, dans la ville de Soumy, au nord-est. Information des autorités locales. La guerre en Ukraine est par ailleurs au centre de discussions ce lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, des discussions entre Russes et Américains visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine, soit 3 ans après le début de l'offensive russe. Les Américains ont également rencontré hier, jusque tard dans la nuit, des responsables ukrainiens. De son côté, Kiev se dit prête à un cessez-le-feu général et sans condition. Direction l'Asie, en Corée du Sud, nouvel épisode de la crise politique qui touche le pays de plein fouet depuis 4 mois et la tentative du président Yoon d'imposer la loi martiale. La Cour constitutionnelle sud-coréenne a rejeté ce lundi la motion de destitution contre le Premier ministre Han Duck-soo. Et si le Premier ministre retourne à son poste, le président, lui, attend encore la décision des juges. C'est Leo Fioretti.
Une petite victoire pour les partisans du président Yoon. Son premier ministre Han Duck-soo retourne immédiatement aux affaires après le verdict de la Cour constitutionnelle prononcé ce matin. Le Parlement avait voté sa destitution le 27 décembre dernier face à son refus de nommer les juges de la Cour constitutionnelle. Ces derniers, nommés à la suite par le ministre de l'économie devenu président par intérim, considèrent bien qu'il s'agit d'une enfreinte à la loi, mais pas suffisamment grave pour justifier une destitution. Si cette décision de la Cour conforte les partisans du président Yoon, le Premier ministre n'était pas directement impliqué dans la tentative d'imposer la loi martiale et les juges n'ont statué que sur un litige de procédure. Il est donc difficile de dire si le président Yoon Suk-yeol connaîtra lui aussi un jugement favorable. Le président Yoon attend toujours le verdict de son procès en destitution et doit comparaître aujourd'hui au pénal, toujours dans le cadre de sa tentative d'imposer la loi martiale en Corée du Sud. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
En France, c'est un féminicide qui avait particulièrement marqué les esprits. Le meurtre de Shahinez Daoud dans des conditions extrêmement violentes. Cette mère de famille a été tuée par son mari. C'était en 2021 à Mérignac, dans le sud-ouest du pays. L'enquête avait révélé une succession de défaillances des services de l'État et poussé à une série de mesures pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. L'affaire avait mis en lumière la mauvaise prise en charge des plaintes. Le meurtrier présumé est jugé à partir de ce lundi devant la Cour d'assises de Bordeaux. Rappel des faits avec Marie Casadebé.
Shahinez Daoud sort de chez elle pour aller chercher ses enfants. Son mari Mounir, dont elle est séparée, l'attend caché dans une camionnette. Il lui tire une balle dans chaque jambe avant de l'asperger d'essence et d'allumer un briquet. Ce drame aurait-il pu être évité? Ce sera tout l'enjeu de ce procès. Le rapport de la police des polices pointe une avalanche de dysfonctionnements. Le harcèlement téléphonique de la jeune femme alors que son mari est en prison pour violence conjugale. Shahinez Daoud porte plainte, mais faute d'être avertie, le juge d'application aménage la peine de Mounir. La jeune femme n'est pas prévenue de sa sortie de prison, elle est à nouveau agressée, nouvelle plainte, mal rédigée par les agents, le parquet demande des précisions en vain. Le rapport révèle que les services de police ne parviennent pas à localiser l'homme. Il répond pourtant 2 fois aux convocations de son agent de probation sans être inquiété. Il se rendra même au commissariat pour se plaindre de ne pas voir ses enfants, son nom entré dans le logiciel n'est n'est relié à aucune autre affaire. 5 semaines plus tard, il tuera sa femme. Depuis, 5 fonctionnaires de police ont été sanctionnés.
Les précisions de Marie Casadebé du service France de RFI. RFI, il est 16h10 à Paris, l'heure de retrouver Nathalie Amar sur le Pont des Arts. Bonjour Nathalie.
Bonjour Juliette Pietraszewski et à tout à l'heure. Sur le Pont des Arts, ça démarre dans 30 secondes.